Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Il est des personnes qui en imposent par leur combativité et leur détermination. Mon invité de ce matin en est un, médaille de bronze des JO de Rio en escrime handisport. Maxime Vallée est en plus, dans la vie de tous les jours, médecin du sport. De quoi avoir des journées bien remplies, ce qui ne l'empêche pas de garder le sourire. Un homme, qui semble vivre son handicap presque normalement et même en tirer quelques avantages. Rencontre. Maxime Vallée, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc, comme je le disais, médecin du sport, champion d'escrime handisport. Vous avez, parmi vos titres de gloire, donc, été au JO de Rio, donc 2016, médaille de bronze au fleuret, c'est ça?
Oui.
En individuel.
C'est ça.
Et en équipe, non, vous avez gagné aussi un titre?
Oui, on fait troisième aussi par équipe.
Troisième aussi par équipe. Alors, je propose qu'on écoute un extrait d'une émission qui était sur France 2 au moment des Jeux Paralympiques. Et après, on va parler de cette victoire et puis surtout, on va parler de vous.
C'est la seule médaille d'aujourd'hui pour l'équipe de France. Elle est en escrime, la première pour l'escrime français, signée donc Maxime Vallée.
Elle fait plaisir, hein, cette médaille. Hein. C'est ouais. Vrai que Maxime vit ses premiers Jeux. Il s'est préparé à Toulouse, hein, avec sa coach de toujours, puisque Maxime a eu une pathologie, hein, il a fait une chute dans un trou aux abords d'un chantier, il est devenu paraplégique du jour au lendemain, et sa coach l'a suivi, Brigitte Aragou, elle a dit « Ok, on va continuer l'aventure », il faisait déjà de l'escrime, et elle a dit oui, elle a dit banco pour ce projet, et Maxime, bah, c'est un travailleur, hein, c'est un travailleur dans la vie perso, puisqu'il fait des études de médecine, il est en 9e année en internat, il veut devenir médecin du sport. Et en escrime, c'est pareil. Je veux dire, c'est le souci du détail, le souci de la perfection.
On a beaucoup de quatrième place, donc ça fait du bien aussi d'avoir des médailles de bronze.
Ça fait du bien, ouais. Et c'est vrai qu'on l'attendait, cette première médaille de l'escrime. L'escrime, c'est un sport phare pour la France, hein, que ce soit en valide ou en paralympique. On est sorti bredouille des deux premières journées. Là, on gagne cette première médaille qui, j'espère, va lancer cette équipe de France avant le par équipe, en fleuret, en épée.
Ouais, j'en voulais à mort et... C'était pas possible de la lui laisser. C'est une médaille qu'on avait eue il y a 4 ans. C'est Alim Latrèche qui l'avait gagnée sur ce même Italien. Et on la garde. On garde cette médaille en France. Et voilà, c'était important. C'était important.
Votre collection de médailles paralympiques, là,
Elle démarre aujourd'hui. Elle démarre aujourd'hui par une très belle médaille de bronze. Quand même, je suis vraiment très très content de cette médaille. Super. Il n'y a plus qu'à aller en chercher une autre vendredi avec les collègues par équipe, avec Damien et Ludo, et on va aller chercher, on va essayer d'aller chercher le mieux.
Voilà, Maxime Vallée, ça ne doit pas être la première fois qu'un journaliste vous pose la question ou vous ressort cet extrait. J'imagine qu'à chaque fois, c'est quand même un bon moment. Est-ce que vous avez un commentaire sur ce qu'on vient d'écouter ?
Oui, c'est un super moment, un de mes plus grands moments de sport, et rien que de l'entendre, ça me redonne les frissons à chaque fois, donc c'est très bon moment.
À l'écran, vous n'êtes pas aussi calme que là en studio, hein. On vous voit tout d'un coup exploser littéralement sur votre fauteuil, jubilé.
Oui, c'est vrai que sur la piste, je lâche toutes les émotions que je garde le reste de la journée.
Alors, on va essayer de faire connaissance avec vous, comme parfois donc on reçoit peut-être des personnages qui peuvent paraître de prime abord un peu atypiques dans une émission, on va dire, sur la vie chrétienne. On va essayer de parcourir un peu votre biographie, essayer de voir qui vous êtes, comment vous êtes devenu comme ça champion handisport. Après, on parlera de l'escrime, et comme traditionnellement dans ces émissions, à la fin, on vous demandera quel est le sens de la vie pour vous, quel regard vous avez sur le Christ, sur l'Église ou sur le pape François. Peut-être pouvez-vous nous dire quelques mots. A priori, donc, vous allez vous présenter pour les prochains Jeux Olympiques, si oui. Vous êtes sélectionné. La liste des médailles, pour vous, l'objectif, c'est, je sais pas, on peut imaginer faire combien de Jeux Olympiques quand on est dans votre discipline comme ça?
Alors, l'escrime, c'est un sport avec, où il faut avoir pas mal de recul et d'expérience. Donc on peut durer très longtemps en escrime. On a vu notre ancienne ministre des Sports, Laura Flessel, qui a fait ses derniers Jeux à 40 ans. Donc il me reste 2 voire 3 Olympiades possibles.
Voilà, parce que vous avez quel âge déjà ?
Et là j'ai 31 ans.
31 ans, donc vous étiez champion à 28 ans.
C'est ça.
Comment vous est venue la passion de l'escrime, Maxime Vallée ? J'ai cru comprendre que ça avait commencé très tôt pour vous. Je sais pas, c'est quoi ? C'est les hasards de la vie ? Comment ça a commencé cette aventure ?
Oui, c'est un petit peu un hasard. C'est vrai que j'ai commencé jeune, très jeune, en suivant un copain qui faisait de l'escrime. Un jour, il m'a dit « Viens, tu vas voir, c'est sympa ». Et j'en suis jamais parti. C'est ma maître d'armes actuelle, Brigitte Aragou, qui m'a mis un fleuret dans la main ce jour-là, avec son papa. Et voilà, je m'entraîne toujours avec elle et toujours avec celui qui m'a amené à l'escrime.
Elle vous a mis donc un fleuret dans la main, donc ça veut dire que vous êtes du coin.
Oui.
Voilà, vous êtes donc toulousain.
Oui.
Et votre club, vous pouvez dire quel est le nom de ce club ?
Oui, je suis au TUC, donc Toulouse Université Club.
Voilà, qui est quoi ? Qui est un des grands clubs français d'escrime ou...
Alors, qui est un gros club omnisport sur Toulouse, puisqu'il y a beaucoup de disciplines au sein du TUC. Nous, on fait partie du TUC Escrime. Et on fait partie, au niveau escrime national, des clubs les plus anciens, parce que ça fait quand même très longtemps que le club existe. Après, au niveau palmarès, on fait partie des clubs qui existent en France. On n'est pas dans les plus grands clubs, mais on fait partie des bons clubs en France.
Il y a eu d'autres champions qui sont sortis de ce club ? Vous êtes la, du coup, l'étoile filante du club ?
Non, peut-être pas l'étoile filante, mais il y a eu quelques très bons tireurs qui sont passés au club, oui.
Donc vous me disiez donc que vous n'étiez pas, en préparant l'émission, vous n'étiez pas spécialement en fait d'une famille de sportifs, voilà. En tout cas, vous aviez pris goût, vous vous êtes entraîné de plus en plus. Vous pouvez nous raconter un petit peu jusqu'à votre accident, comment se faisait la progression de Maxime Vallée ?
Ouais, alors c'est vrai que mes parents sont pas du tout sportifs. En fait, ils s'y sont mis avec mon frère et moi, petit à petit, en nous suivant en compétition. Et en fait, sur les petites catégories, au début, en Benjamin, en minime, j'ai vite pris goût à la compétition. Et comme ça se passait plutôt bien, on s'entraînait de plus en plus pour aller chercher...
Parce que votre frère faisait de l'escrime aussi.
Oui, mon petit frère s'est mis à l'escrime aussi. Et comme il était plus jeune, on avait une catégorie d'écart, donc on n'a jamais vraiment fait d'escrime dans la même équipe, mais on s'entraînait régulièrement ensemble. Et on a eu de belles équipes quand même à Toulouse, puisqu'on a eu 2 médailles de bronze sur des championnats de France. Donc on a eu une équipe qui marchait bien.
À quel âge c'était ?
Du coup, c'était au lycée.
D'accord.
Au lycée, et moi j'ai dû arrêter, enfin mettre en pause en fait l'escrime au moment où j'ai passé le concours de médecine.
Parce que c'était combien d'heures d'entraînement même au lycée par semaine ?
On s'entraînait 2 à 3 fois par semaine, donc c'était pas grand-chose par rapport à ce que je fais maintenant. Mais c'est vrai que pour passer le concours de médecine, voilà, je voulais mettre toutes les chances de mon côté et j'ai mis l'escrime en pause pendant 2 ans. J'ai eu mon concours et voilà, quand on revient... Ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas entraîné, les autres ont continué de progresser, c'est dur de revenir au niveau.
Alors, vous avez donc un accident de voiture, c'est ça ? C'était en 2009 ?
Oui, c'est ça, voilà, en 2009.
Donc vous aviez 22 ans ?
Oui.
C'est pareil, ce que vous m'expliquez, c'est qu'en fait, vous ne vous souvenez pas de ce qui s'est passé ?
Du tout.
Voilà, vous étiez quoi ? Vous marchiez en ville ou...
Probablement en train de rentrer chez moi. Et
on vous a retrouvé en fait du coup, comment
c'est
et dans quel état c'est...
C'est le lendemain en fait, les pompiers et le SAMU qui m'ont retrouvé dans un trou en fait de
chantier. Ah, vous avez passé la nuit dans le trou de chantier ?
J'y ai probablement passé la nuit ou une partie de la nuit.
Donc inconscient ?
Oui, enfin en tout cas moi je m'en souviens pas, je me souviens même pas de la journée d'avant en fait.
D'accord. Et alors, du coup, quelles ont été les conséquences immédiates de cet accident ?
Ben en fait, moi, mes premiers souvenirs, c'est à l'hôpital, où quelques brefs souvenirs avant d'être opéré, puisque j'ai eu plusieurs fractures au niveau du dos, de mes vertèbres. Et du coup, depuis, je suis paraplégique, donc j'ai plus l'usage de mes jambes.
Paraplégique, ça veut dire que du coup, vous n'avez plus d'usage quoi, à partir du haut des jambes, c'est ça ?
Alors moi, en gros, c'est à peu près au niveau du nombril.
D'accord. Donc vous avez cet accident. Et alors ce qui est étonnant quand on regarde, quand on lit les articles qui sont parus sur vous, c'est que, alors peut-être aussi est-ce parce que vous êtes pudique et vous avez le droit de l'être à nouveau aujourd'hui, hein, je ne veux pas trop vous tirer les vers du nez, mais on a l'impression que très rapidement vous remontez sur le cheval quelque part Et puis, vous reprenez votre vie, la même bande de copains, vous continuez l'escrime.
C'est vrai qu'en fait,
ça paraît un peu fou comme ça, vu de l'extérieur.
J'ai eu cette chance quand j'étais à l'hôpital, en fait, très, très rapidement après l'opération et l'accident, d'avoir mes maîtres du côté faculté de médecine qui m'ont dit on va voir pour reprendre tes études. On va voir comment on fait, comment on se débrouille. Et au niveau de l'escrime, j'ai ma maître d'armes qui est venue me voir aussi, qui était dans les premières personnes à venir me voir, qui m'a dit dès que tu veux revenir à l'escrime, on sera là et il n'y a aucun souci.
On vous a fait confiance tout de suite et vous pensez que c'est ça qui vous a aidé à vous relever très rapidement?
En fait, plus que confiance, on m'a, entre guillemets, pas laissé le choix. On m'a dit... T'as eu un accident, ok, mais c'est pas ça qui va t'empêcher d'arrêter tes études. Si tu veux revenir faire de l'escrime, c'est pas ça qui va t'empêcher de faire de l'escrime. Et du coup, j'ai pas vraiment eu le temps de me poser la question, de me dire est-ce que je vais pouvoir continuer. Puisqu'avant que je me pose la question, on m'a dit tu vas continuer comme ça et on sera là pour t'aider.
Voilà, donc vous étiez déjà en fauteuil avec un fleuret à la main. Donc vous recommencez vous recommencez vos études et puis vous recommencez l'escrime et le fait en l'occurrence d'avoir été on va dire entièrement valide vous a beaucoup aidé donc dans le monde du handisport et vous dites que c'est un peu ça peut-être aussi qui a fait que vous avez percé. Expliquez-nous ça.
Oui, parce qu'en fait quand j'ai commencé l'escrime en fauteuil, j'avais déjà un recul de quasiment une quinzaine d'années d'escrime. Et c'est vrai que quand je suis arrivé sur les premières compétitions, tout le monde s'est dit il y a un nouveau, sauf que c'est un nouveau en fauteuil en fait, c'est pas un nouvel escrimeur. Et on a la chance en escrime d'avoir un sport en fauteuil et debout qui soit exactement le même. La seule différence c'est qu'au lieu de se déplacer sur les jambes sur la piste, on se déplace sur le fauteuil. Mais le sport est totalement identique au niveau du matériel, des règles.
Parce que vous déplacez beaucoup sur le fauteuil ?
Alors en fait, le fauteuil ne bouge pas.
Le fauteuil bouge pas, c'est ça.
Le fauteuil ne bouge pas en escrime. On bouge, nous, sur le fauteuil. Donc on se déplace vers l'avant pour attaquer et vers l'arrière pour se défendre. Donc l'adaptation en fait paralympique de l'escrime a été vraiment très bien faite et se rapproche énormément du sport olympique.
Mais alors en quoi ça vous a aidé de manière décisive d'avoir eu cette expérience précédente en fait?
Il y a le côté expérience d'avoir fait autant d'escrime avant, puisque tout ce qui était technique, tactique, précision, vitesse, je l'avais déjà.
Vous me disiez que vous pensiez surtout... que vous auriez peut-être pas percé autant parmi les valides. Enfin, vous me direz, c'est un peu de la fiction, hein, mais...
Oui, c'est ça. Après, c'est vrai qu'au niveau valide, j'avais fait le choix de toute façon de privilégier mes études par rapport à l'escrime. Alors, choix que je fais toujours, de privilégier ma carrière professionnelle par rapport à l'escrime. Mais l'avantage en paralympique, c'est vrai que j'ai eu des sensations d'escrimeur debout, des sensations de touche et de déplacement que ceux qui ont commencé l'escrime en fauteuil, quelque part, n'auront jamais.
Alors, est-ce que vous pouvez nous donner vos titres? Donc, j'ai cité donc les Jeux Olympiques de Rio, donc troisième en individuel et par équipe, donc au fleuret. Ouais. J'ai cru comprendre que vous avez été aussi champion du monde, cette fois c'était fleuret par équipe, troisième en individuel, c'est ça, Budapest?
Ouais, c'est ça.
Donc 2013, premier en équipe en 2015, et puis champion d'Europe, c'est ça?
Et champion d'Europe, du coup, juste avant les Jeux, en mai 2016, puisque c'est ce titre qui m'a donné mon ticket pour les Jeux.
Voilà, donc vous n'avez pas encore tout raflé, mais en tout cas, c'est un bon début. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire, peut-être, de cette finale, voilà, qu'on a entendue tout à l'heure, puisqu'après, on va parler de l'escrime, peut-être on pourra revenir sur le monde de la compétition. Alors, c'est sûr que c'est compliqué, parce qu'on n'a pas montré les images, mais j'en imagine qu'il y a un jargon, et que vous vous souvenez précisément, peut-être, de vos dernières touches, c'est comme ça qu'on dit dans...
Oui.
Voilà,
Je me souviens de toutes les touches de toute la compétition.
Ouais. Est-ce que vous pourriez nous en décrire une ou deux pour nous aider à rentrer dans l'univers? Parce que c'est vrai que ça va vite. L'escrime, on regarde ça à la télé, mais on comprend pas grand-chose quelque part.
C'est vrai que ça va très vite. Et comme on est un sport d'opposition, un adversaire, il n'y en a qu'un des deux à la fin qui gagne. Et là, sur la troisième place, c'est terrible parce qu'il y en a un qui repart médaillé. Il y en a un qui repart, on a l'habitude de dire la médaille de chocolat, mais la médaille en chocolat, c'est terrible. Ce quatrième, c'est une frustration terrible, que je ne souhaite pas tester. Mais voilà, donc du coup, c'est un match qui est vraiment très important, où il faut vraiment prendre le dessus sur l'adversaire. Et là, ce jour-là, j'ai pu prendre le dessus sur mon adversaire très vite, dès le début du match, puisque c'est un Italien que je rencontre régulièrement. Et d'habitude, les matchs sont très serrés. Et là, en fait, je l'ai étouffé dès le début et je ne l'ai pas laissé respirer. Donc, en fait, dès que les commandements en escrime, c'est en garde, prêt, aller. Et au moment du aller, on peut commencer soit à attaquer, soit à défendre. Et en fait, pendant tout le match, sur toutes les touches, en fait, au moment du aller, j'ai attaqué à chaque fois. À aucun moment, je lui ai laissé la possibilité d'attaquer.
Ce qui est aussi, j'imagine, très risqué, non ?
Oui, c'est risqué parce que comme je faisais...
Vous exposiez à chaque fois, en fait.
Je m'expose à chaque fois, mais je prenais aussi l'initiative, hein, lui laissant pas le temps de respirer ni de réfléchir à quoi faire. Donc c'était vraiment le but, c'était vraiment de l'agresser. Et tant que j'étais devant au score, du coup, de continuer cette stratégie-là jusqu'au bout. Et il n'a pas réussi à s'en sortir, donc tant mieux pour moi.
Et de manière plus précise, si vous deviez décrire une des dernières touches, je ne sais pas, il y a des noms pour que porte ce que...
Oui, en général, alors, la touche qui marchait bien contre lui, c'est de faire semblant, puisqu'on a beaucoup de... pas d'intox, mais beaucoup de feintes en fait en escrime. Et donc moi, mon but, c'était de faire semblant d'aller le toucher à l'épaule. Comme ça, à ce moment-là, il lève la main et j'en profite pour passer dessous et le toucher juste sous le bras.
Voilà, Maxime Vallée, médecin du sport et champion d'escrime en e-sport. On va faire une pause et on va vous retrouver tout de suite après, peut-être pour que vous nous aidiez à rentrer dans l'univers de l'escrime. Ça fait partie des sports qu'aiment beaucoup les Français, ou dans lesquels aussi les Français brillent. J'ai cru comprendre qu'on était vraiment une des premières nations dans ce sport. Et puis, un sport qui fascine. On va découvrir tout ça avec vous.
Jubile terra, camin ad festo cadat ecclesia, precadis Domini, donam precadia. Camin ad festo cadat ecclesia, precadis Domini, donam precadia. Cadeat selam, jubile terra. Cadeat gentes, risolet citara. Cadeat selam, jubile terra. Cotat ecclesia,
Regalis Domini, Lorum Regalia.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Maxime Vallée, champion paralympique, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce jour. Maxime Vallée qui est donc en plateau, médecin du sport et champion d'escrime handisport pour ceux qui nous prendraient en cours de route. Maxime Vallée a obtenu, donc, je le disais au début de cette émission, la médaille de bronze aux Jeux paralympiques de Rio en 2016 en individuel et en équipe. Est-ce à dire que dans l'escrime paralympique, vous faites partie des tout premiers? Je ne sais pas, j'imagine qu'il n'y a peut-être pas de classement, mais est-ce qu'il y a eu d'autres médailles dans d'autres armes pour le paralympique en escrime?
À Rio.
À Rio ou dans d'autres Jeux olympiques récents?
Alors oui, dans les Jeux paralympiques récents, il y a eu pas mal de médailles pour l'escrime française, puisqu'on fait partie des...
Je parlais du paralympique, hein, c'est...
Oui. Au niveau des Paralympiques, on fait partie des nations qui comptent vraiment. Et à Rio, on ramène une médaille d'or à l'épée homme par équipe, et donc deux médailles de bronze, une pour moi en individuel et une au fleuret par équipe avec mes coéquipiers.
D'accord, vous pardonnerez mon ignorance. Alors c'est vrai que l'escrime, les Français, on va dire, le découvrent au moins à l'occasion des Jeux Olympiques. La France se distingue dans ce sport. J'ai cru comprendre que c'était l'Italie qui tenait le haut du pavé, mais que la France faisait partie du peloton de tête. Pourquoi est-ce que la France est un pays d'excellence comme ça en matière d'escrime, vous diriez?
En fait, il y a eu des écoles d'escrime qui sont créées. Alors, au départ, c'est des écoles militaires, et il y a eu l'école française. Il y avait l'école italienne et l'école russe. C'était les trois principales écoles d'escrime. Et on retrouve d'ailleurs actuellement ces trois nations comme des nations fortes en escrime olympique et paralympique, même s'il y a d'autres pays qui sont arrivés et qui s'inspirent en fait de ces écoles-là. Mais sur la formation des maîtres d'armes, on est encore parmi les meilleurs, puisque on le voit malheureusement, nos maîtres d'armes français partent entraînés à l'étranger parce qu'ils sont très très recherchés dans le monde entier.
Voilà, donc ce serait en fait historiquement, on a toujours, on va dire, investi sur ce sport de combat.
Ouais, on a toujours été bon, toujours été présent.
Alors il faut préciser que c'est un sport de combat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Ça fait partie de la catégorie, je ne sais pas, enfin, ça a quelque incidence
C'est vrai qu'on fait partie des sports de combat et on fait même partie des arts martiaux, au même titre que le judo, le karaté. Et du coup, on a des codes communs avec tous ces sports-là. Par exemple, la tenue de l'escrimeur, c'est une tenue blanche. La tenue du maître d'armes, c'est une tenue noire. On se salue au début du match. On salue l'arbitre.
Rappelez-nous ce qui est dit peut-être aussi.
Alors l'arbitre au début de chaque touche dit en garde, prêt, allez et halte au moment de l'arrêt de la touche.
Voilà, donc vous appelez vos entraîneurs en fait des maîtres d'armes, c'est ça?
Voilà, et du coup on les appelle maîtres.
Est-ce que ça a une incidence d'appeler, vous diriez, je sais pas, ça fait partie du décorum ou c'est...
Ouais, ça fait partie de la tradition et ça nous apprend aussi le respect des maîtres d'armes et de la fonction du maître qui est là pour nous apprendre notre sport.
Alors il y a trois armes en escrime, c'est le fleuret, l'épée et le sabre. Alors je le dis pour ceux qui se diraient, oh là, qu'est-ce qui se passe? On est dans une émission Vivante Église. On reçoit de temps en temps comme ça des personnalités, hein, pour voyager un petit peu, surtout à l'occasion des émissions du vendredi. Et à la fin, dans la dernière partie de l'émission, on vous posera peut-être quelques questions plus philosophiques. Donc ces trois armes, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu leur spécificité?
Oui, alors en fait, les armes, elles ont des origines historiques. L'épée, c'était l'arme du duel au premier sang versé. Donc, c'est-à-dire qu'on pouvait toucher n'importe où au niveau du corps, donc les bras, la tête, le tronc, les jambes, les pieds. Et c'est le premier qui touche qui a raison. Le fleuret, c'est l'arme du duel à mort. Et donc, il fallait essayer de toucher les parties vitales du corps. Et donc du coup, actuellement, en escrime moderne, on a gardé cette idée-là, et on touche uniquement le tronc, donc le devant du tronc et l'arrière. On peut toucher dans le dos aussi. Et le sabre, c'est la troisième arme qui
pas sur les bras donc. Hein.
Non, pas sur les bras, ni les jambes, ni la tête.
D'accord.
Et le sabre, c'est l'arme plutôt des militaires, l'arme des cavaliers, de la charge à cheval. Et donc, on touchait avec le tranchant de l'arme tout ce qui était au-dessus de la ceinture. Et en fait, on touchait au-dessus de la ceinture principalement pour tuer le cavalier d'en face, sans abîmer le cheval, puisque le cheval avait de la valeur, voire plus de valeur que le cavalier. Et il fallait récupérer le cheval juste après.
Et alors, c'est-à-dire que pour le sabre aussi, c'est comme ça que l'on combat, c'est-à-dire qu'on doit toucher le haut du corps, mais par la tranche?
Exactement. On a gardé ça, on tranche l'adversaire, tout ce qui est au-dessus de la ceinture, donc bras, tronc et tête.
Voilà, c'est des armes qui pèsent à peu près le même poids ou font la même taille, ou il y a des grosses différences
Oui, la taille, c'est à peu près la même pour toutes. Le poids, les armes, le fleuret et l'épée font 500 grammes, parce que c'est des armes légères qu'il faut pouvoir manier rapidement. L'épée, comme il faut pouvoir se protéger toutes les parties du corps, même la main, l'épée est un petit peu plus lourde et pèse 750 grammes.
Alors, il y a un certain mythe autour de l'escrime. Je ressortais un reportage du Figaro à l'occasion du centenaire de la Fédération internationale d'escrime. On voit une magnifique photo d'un jeune dans une salle avec des splendides fauteuils, voilà, qui a une attitude très noble. Qu'est-ce que vous diriez là-dessus? Est-ce que ça fait partie, on va dire, un peu de la mythologie? Est-ce que c'est encore une réalité? Quid de cette... de ce mythe du chevalier, mais enfin du...
Oui, il y a toujours un peu un mythe là-dessus. Alors on a un mélange de mythe et de modernité maintenant, puisque les armes ne sont plus les mêmes. On s'entraîne de plus en plus dans des gymnases ou dans des salles d'armes modernes. Mais il reste des clubs avec des salles d'armes à l'ancienne, avec voilà, les grands fauteuils en cuir... Nous, dans notre club, au TUC, on a un grand râtelier en bois avec toutes les armes disposées dessus, tous les masques alignés, et c'est vrai que ça donne une ambiance assez particulière aux salles d'armes.
Vous me disiez qu'il y avait encore quelques salles mythiques en France, et entre autres, une aux Invalides. Vous pouvez en dire deux mots, peut-être?
Oui, un des premiers clubs à faire de l'escrime handisport en France, c'est le cercle sportif des Invalides, et ils ont gardé une salle d'armes, leur salle d'armes d'origine, en fait, qui est au pied de la coupole des Invalides, donc au-dessus du tombeau de Napoléon. Et quand on va s'entraîner à cet endroit-là, c'est quand même très impressionnant, et de voir les touristes nous regarder à la fenêtre, c'est assez rigolo.
Avec un maître d'armes donc militaire, hein, on se disait qu'il y avait peut-être encore, même peut-être la garde républicaine était encore entraînée au maniement du sabre qu'il porte, hein, je crois. Peut-être y a-t-il encore quelques traditions qui sont perpétuées au sein de l'armée française. Parlez-nous d'un peu du monde de la compétition. Voilà, en l'occurrence, vous, c'est du handisport. Là, vous allez très bientôt participer donc au championnat d'Europe.
Oui.
Qu'est-ce que ça représente comme exigence? Je ne sais pas, vous comptez le nombre d'heures, ce que vous mangez, vous entraînez plusieurs heures par jour. Qu'est-ce que ça représente comme exigence?
Alors, en fait, nous, on essaie de calculer un petit peu les volumes d'entraînement, puisqu'on est un sport où il faut avoir un petit peu d'imagination, de fantaisie, on va dire, pour surprendre l'autre. Et donc, du coup, on s'entraîne, on a des volumes d'entraînement qui sont plus ou moins importants selon les périodes. Alors après, c'est des volumes d'entraînement qui sont quand même importants, puisqu'on est toujours sur une base de à peu près 10 heures d'entraînement par semaine. Mais au moment d'arriver au jeu, on peut monter jusqu'à à peu près 30 heures par semaine.
Donc là, vous avez des stages. En l'occurrence, ces derniers temps, donc vous aviez un stage de préparation, c'est ça, pour les championnats d'Europe. À quoi ça ressemble, un stage, en fait?
Ouais, on était en stage à Nîmes la semaine dernière.
C'est 8h-20h, on fait de l'escrime ou...
Pas autant. On commençait vers 9h, 9h30. C'est vrai que ces stages, comme c'est regroupé, on en profite pour faire un gros volume quand même d'entraînement. Et donc on s'entraînait sur à peu près 8h, 9h, 9h30 jusqu'à midi et demi. Et après, on reprend de 14h à 19h.
Donc, on imagine que c'est du physique, c'est du technique. Est-ce que aussi, vous, comme dans d'autres sports, vous visionnez la manière dont combattent vos adversaires, vous essayez d'anticiper leur technique, etc.
Oui, on fait du travail donc, physique, technique, de rapidité, de précision. Et en plus de ça, on fait du travail vidéo où on analyse les tactiques de nos adversaires. On fait aussi de la préparation mentale pour se préparer à tout ce qui peut nous arriver sur la piste et en dehors. Et on a en plus de ça une partie matérielle qui est très importante chez nous au niveau des armes, pour que les armes soient réglées et correspondent le plus possible à nos attentes.
Mais ça veut dire quoi, en quoi on règle un fleuret, une épée ou un sabre? C'est pas les mêmes pour tous?
Alors non, c'est pas les mêmes pour tous, puisqu'on a une poignée avec laquelle on tient l'arme, et cette poignée, il faut qu'elle soit le plus ergonomique en fait pour notre main. Et après, certains aiment avoir des armes très souples, d'autres un peu plus rigides, très légères, un peu moins légères. Voilà, chacun a un petit peu sa préférence là-dessus. Et nous, en handisport, on rajoute à ça le fauteuil d'escrime, puisque chaque fauteuil est individualisé et fait sur mesure pour l'athlète.
Vous savez pourquoi dans le handisport, en tout cas en escrime, le fauteuil est resté fixe comme ça? Parce que moi, quand j'ai commencé à regarder votre combat, j'étais surpris en fait. Je me suis dit, mais il y a d'autres sports où on avance avec son fauteuil, non? Vous savez quelle serait peut-être la raison, l'explication?
Alors je n'ai pas la raison exacte historique, mais moi, une explication qui me paraît assez simple, c'est que souvent pour pousser le fauteuil, il faut pousser avec les deux mains, et qu'à l'escrime, on a une main qui est prise par l'arme, et que si on pousse que d'un côté, on va tourner en rond.
C'est sûr, vu comme ça, ça paraît assez logique. Avant qu'on fasse une pause, j'aimerais que vous nous parliez un peu du monde du handisport, et puis aussi peut-être de l'association que vous avez créée, c'est ça qui s'appelle Hope.
Oui.
Le monde du handisport, je sais pas, c'est un monde à part pour la haute compétition. On a souvent une image... très positive, et puis d'un univers peut-être moins gagné par l'argent ou par justement l'individualisme. En tout cas, quand on regarde des Jeux Olympiques en e-sport, entre autres, ou des championnats, souvent c'est ce qui ressort ou c'est ce qui dénote. Est-ce que c'est de fait ce qu'on vit aussi de l'intérieur?
C'est vrai que c'est un peu l'image qu'on a de l'extérieur, et de l'intérieur on le ressent un petit peu, même si l'argent commence à arriver aussi dans le handisport, puisqu'il y a de plus en plus de retransmissions, de sponsoring, et donc du coup l'argent arrive, alors c'est bien...
Il n'y a pas de professionnels déjà
Alors il y a quelques professionnels dans certains sports, en tennis il y a des professionnels, en natation aussi, voilà, dans l'athlétisme quelques-uns, donc ça commence à arriver. En escrime pour l'instant il n'y en a pas, ou pas vraiment. Mais voilà, on commence à se structurer comme un sport de haut niveau. Ça l'est depuis longtemps, mais de vraiment très, très haut niveau.
Et donc, il y a une autre ambiance ou...
Alors, il y a une ambiance un petit peu différente. Moi, je ne m'en rends pas trop compte, puisque je n'ai pas vécu des compétitions de ce niveau-là en tant que valide, donc de Jeux Olympiques ou de Championnats du Monde. Mais on ne l'a pas remarqué, mais on nous l'a rapporté en fait à Rio, puisque les Jeux Paralympiques sont 15 jours après les Jeux Olympiques, et les bénévoles et les spectateurs nous ont dit qu'ils préféraient 100 fois l'ambiance des Paralympiques que l'ambiance des Jeux Olympiques, puisque...
Pourtant, il y a moins de monde dans le stade.
Alors, il y avait... C'était... À Rio, c'était à peu près pareil.
Ah bon ?
C'était à peu près pareil,
parce que... C'est pas toujours ce qu'on voyait sur les images, mais peut-être que c'était pas la bonne heure, c'est...
Ouais, alors ça dépendait des sites, mais je sais que nous en escrime, les tribunes étaient quasi pleines tout le temps, puisqu'en fait le prix des billets pour les Jeux Olympiques était très cher par rapport au pouvoir d'achat des Brésiliens, et pour les Jeux Paralympiques c'était un prix des billets très bas pour permettre aux gens de venir, et en fait ça nous a permis pendant les Jeux Paralympiques d'avoir dans les tribunes des familles, des écoles qui venaient assister aux Jeux Paralympiques, ce qu'ils n'avaient pas pu faire aux Jeux Olympiques. Et donc nous, on a eu une ambiance extraordinaire.
Alors, j'ai pas l'historique, on va dire, de la visibilité des Jeux Paralympiques, mais qu'est-ce que vous pourriez dire sur ce sujet? Est-ce que c'est récent, c'est en croissance exponentielle? Qu'est-ce que vous sentez côté sportif?
Ouais, c'est en croissance... exponentielle là en ce moment. Il y a eu un gros effort qui a été fait au départ par France Télévisions pour les Jeux de Rio, puisque on est passé de moins d'une heure de direct par jour lors des Jeux de Londres sur France Télé à plus de 10 heures de direct par jour pendant les Jeux de Rio, avec un plateau qui était encore sur place et les mêmes journalistes qui couvraient Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques. Donc ça, c'est vrai que ça a permis de montrer en fait le handisport, et ça a surtout été bien fait, puisque ça a été présenté comme on regarde du sport, on regarde une performance, et on regarde pas du handicap. Donc c'était vraiment regarder les Jeux paralympiques et la performance des athlètes. Et cette vision-là a plu aux téléspectateurs, puisqu'ils ont eu des chiffres, des résultats qui étaient bien au-delà de leurs espérances. Et au final, ils ont même augmenté le volume horaire qui était prévu au départ, tellement ça marchait bien. Et ça s'est répercuté sur les Jeux d'hiver de Pyeongchang l'année dernière. Et probablement que ça va encore augmenter pour les Jeux de Tokyo dans 2 ans.
Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots, avant qu'on fasse une deuxième pause, de votre association HOPE ? Donc c'est une association, si j'ai bien compris, pour aider en fait au développement de l'escrime handisport, c'est ça ?
Oui, en fait le but, je me suis aperçu un petit peu en arrivant dans le milieu du handisport, que dans la région, on était plusieurs escrimeurs
en
handisport.
La région, c'est Occitanie.
Oui, alors on était région Midi-Pyrénées à l'époque, mais maintenant Occitanie. Et l'avantage de l'escrime, c'est qu'on peut pratiquer de l'escrime handisport dans des clubs valides. Et donc, du coup, souvent, on se retrouve un seul escrimeur ou deux handisport dans un club, un à Toulouse, un qui va être à Auch, l'autre à Cahors, sans trop se connaître et pouvoir vraiment s'aider. Et donc l'idée de cette association, c'était de mutualiser un petit peu les compétences et les envies de chacun pour pouvoir s'aider les uns les autres et créer une équipe, une sorte d'équipe régionale que maintenant on a étendue à toute l'Occitanie.
Et donc c'est quoi ? C'est aide financière ? C'est aide en matériel ou...
Oui, c'est ça, c'est de l'aide financière, aide en matériel. Mais après, dans l'association, on a aussi quelqu'un qui était doué en informatique, donc qui nous a aidé à faire un site internet. Quelqu'un qui était comptable, donc qui nous aide aussi sur le plan comptable, quelqu'un qui sait bien faire les dossiers, donc qui aide chaque club à bien rédiger les dossiers. Donc chacun voilà, apporte un petit peu sa petite compétence et, pour aider tout le monde à progresser et à au moins profiter au maximum de son sport.
En dehors des grands événements sportifs comme ça, le handisport, c'est quelque chose qui se développe. Il y a une fédération française handisport ou...
Oui, il y a une fédération française handisport qui est d'ailleurs un petit peu particulière, puisqu'il y a plusieurs sports en fait dans la même fédération. Alors que les autres fédérations, on a la fédération française d'escrime, de football, de rugby, mais c'est une fédération pour un sport. Et la fédération handisport recouvre plus d'une vingtaine de sports. Donc on est dans la même fédération que le basket fauteuil, par exemple, que le rugby fauteuil.
Mais du coup, ce n'est pas des clubs à part, j'imagine. En fait, c'est à l'intérieur des clubs, il y a une section handisport.
Exactement. Dans le club de natation, il y a une section handisport. Le Stade Toulousain Rugby, par exemple, a un club de rugby, une section de rugby handisport. Le TFC a un club de foot handisport.
Le rugby handisport, ça donne quoi en fait ?
Alors en fait, ça ressemble un petit peu plus. Il y a deux rugby. Il y a du rugby à 13, avec le ballon ovale et la passe en arrière. Et au lieu de se plaquer, en fait, il faut qu'il y ait un contact entre les deux fauteuils, entre les deux athlètes, ce qui est considéré comme un plaquage. Et le rugby à 15, qui est ce qu'on appelle le quad rugby, qui ressemble un petit peu plus au football américain, puisque là on joue avec un ballon rond et on a droit de faire la passe vers l'avant. Donc en fait on bloque ses adversaires pour faire la passe à un coéquipier démarqué qui va les marquer dans un but.
Il reste des sports où il n'y a pas de catégorie handisport comme ça, parce que je voyais pour les JMJ de Rio, il y a du ping-pong, la natation, du tennis.
Ouais, il y a maintenant très très peu de sports qui n'ont plus d'adaptation. Puisque tous les sports ne sont pas adaptés à tous les types de handicap.
Il y a même le triathlon, je crois, depuis
ouais,
le décathlon depuis.
Le triathlon est au jeu. Alors tous les sports ne sont pas paralympiques, mais c'est comme tous les sports ne sont pas olympiques non plus. Mais il y a maintenant quasiment tous les sports qui ont une adaptation handisport.
On va faire une deuxième pause et puis on va vous poser quelques questions sur, on va dire, la manière dont vous vivez votre handicap, dont vous voyez le monde du handicap, peut-être le sens de votre vie, voilà, quel sens la vie a pour vous, et puis ce que vous pensez peut-être du Christ et de l'Église.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Maxime Vallée, champion paralympique, c'est donc, pour rappel, le thème de l'émission Vivante Église de ce jour, de ce matin. Donc Maxime Vallée qui est médecin du sport et champion d'escrime handisport. Pour ceux qui par hasard prendraient cette émission en cours de route, je vous rappelle qu'il a, il a été en médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Rio 2016 en individuel et en équipe. Maxime, comme promis, c'est un peu la tradition dans cette émission. À la fin, on pose des questions plus existentielles. Voilà, je vous ai prévenu et vous avez accepté. Avant peut-être de vous poser une question franchement existentielle, qu'est-ce que vous diriez sur le handicap ? Parce qu'en fait, dans le fond, vous, je ne dis pas que votre handicap est léger, hein, mais peut-être léger par rapport à certains. Et puis, vous avez construit quelque chose d'extraordinaire avec ce handicap. Est-ce que le monde du handicap en dehors du sport de haut niveau, vous connaissez un petit peu et vous avez découvert à la faveur de ce qui vous est arrivé ?
Oui, parce que du coup, on rencontre des gens qui ont des handicaps différents. C'est vrai que moi, je croisais un petit peu ce monde du handicap à l'hôpital, mais que je voyais d'un œil professionnel et pas vraiment de l'intérieur. Et du coup, j'ai découvert ça moi-même après mon accident. Et on s'aperçoit que le handicap est en fait très, très différent et vécu très différemment entre les gens. Et au final, tu sais qu'on dit souvent que la seule barrière du handicap, c'est celle qu'on se fixe soi-même. Alors ça fait une grande phrase, mais c'est quand même souvent vrai. Quand on a envie de s'en sortir, ben on se débrouille, on essaye et on arrive quand même en général à se débrouiller. Alors c'est sûr que je ne vais pas monter tout seul un escalier, mais avec un coup de main, un escalier, ça se monte.
Est-ce que parfois vous avez croisé dans votre vie, peut-être dans vos engagements, j'imagine que ça vous est arrivé de témoigner, des gens qui sont porteurs d'un handicap et qui pour le coup vous êtes dit « Ah oui, là c'est un autre monde et une autre réalité ».
Oui, c'est vrai qu'il y a des handicaps qui sont lourds, mais malgré ça, en fait, il faut voir un petit peu l'objectif et la façon de vivre de la personne. Mais j'ai vu des gens qui avaient des handicaps très lourds et qui profitaient de la vie de façon extraordinaire, beaucoup plus que probablement pas mal de gens qui n'ont pas de handicap, mais parce que eux ne se fixaient pas de limites à ce niveau-là.
Alors qu'est-ce que vous diriez du sens de la vie ? Quel sens la vie a pour Maxime Vallée ? J'ai une question un peu générique à ce sujet, c'est pourquoi vous vous levez le matin ? Est-ce que le sens de la... Quel est-il pour vous le sens de la vie ? Qu'est-ce que vous diriez ?
Moi j'ai deux objectifs comme ça, c'est le plaisir, profiter de la vie en général. Et après, c'est au niveau émotionnel. C'est vrai que je suis quelqu'un qui apprécie les émotions plutôt fortes. Et c'est pour ça que la compétition me procure ces émotions extraordinaires, puisqu'on vit des choses qu'on ne pourrait pas vivre à l'extérieur. Mais voilà, c'est quelque chose que je recherche aussi un petit peu, parce que bah, je suis allé faire un saut en parachute, je fais de la plongée. Voilà, je recherche ces sensations un petit peu différentes et sensations fortes.
Donc vous définiriez quoi comme un épicurien aventureux, ou ce que j'entends, c'est que vous cherchez à profiter de la vie et que c'est, comment dire, que c'est... Que ça soit dense, ça soit fort.
Oui, que ce soit une vie agréable et rythmée, on va dire.
Est-ce que vous êtes déjà posé la question de l'existence de Dieu dans votre vie ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a traversé l'esprit ? Par exemple, j'imagine peut-être après votre accident.
Oui, c'est des questions que je me suis posées. Alors, pas forcément au moment de l'accident. C'est vrai que moi, je suis pas croyant, j'ai jamais été. Donc, c'est que l'accident n'a pas vraiment remis ça en cause dans un sens ou dans l'autre.
C'est-à-dire que la question est ouverte, ou vous diriez que vous êtes franchement athée ?
Non, c'est pas vraiment ouvert, non. Oui, je pense que je suis franchement athée, comme
d'accord,
comme
vous dites. D'accord, vous n'êtes pas un agnostique, c'est-à-dire vous ne dites pas peut-être que Dieu existe.
Non, pas vraiment. Ce serait qu'un esprit très scientifique quand même, on va dire, là-dessus.
Vous savez que c'est quand même une catégorie de Français qui devient moins importante en France. C'est-à-dire que, par exemple, parmi les jeunes, c'est une enquête qui est sortie, entre autres, dans le journal La Croix en fin de l'année dernière, enfin de l'année scolaire. Il y a de plus en plus, dans la tranche des 18-30 ans, de gens qui se disent croyants en Dieu. Alors après, parfois, c'est sans religion ou au-delà des religions. Mais vous ne vous sentez pas spécialement dans cette catégorie?
Non, pas vraiment là-dedans, mais c'est bien, il faut croire... Il faut croire en des choses. Et,
Est-ce que vous avez rencontré dans votre vie des gens qui croyaient en Dieu, qui vous ont dit que parfois ça arrive parmi les sportifs de haut niveau, on sait qu'il y a des sportifs qui ont une grande foi, et qui vous ont dit qu'ils avaient fait une rencontre avec Dieu, ou que pour eux Dieu existait, qu'ils avaient une relation avec lui?
Oui, moi j'ai mes grands-parents qui sont croyants. Et...
C'est des sportifs de haut niveau, vos grands-parents?
Non, pas vraiment. Pas vraiment. Mais oui, dans l'équipe, on avait... et on a toujours des personnes qui croient en Dieu, et en plusieurs dieux différents. Mais bon, voilà, c'est vrai que nous, là-dessus, il n'y a pas vraiment de tabou entre nous.
C'est des choses dont vous parlez parfois, ou pas trop?
Ouais, c'est des choses dont on parle, et parce que c'est vrai que de temps en temps on voit avec eux qui ça leur donne une confiance en eux, puisqu'ils se disent oui, mais enfin moi j'y crois et je sais que j'ai confiance parce que j'ai un destin là, et je suis soutenu, je suis fait pour ça. Et c'est vrai que ça leur donne une force que moi quelque part en pur scientifique, on va dire, j'ai pas.
J'ai souvent une interrogation à l'égard des gens qui se disent agnostiques, et particulièrement des gens qui sont athées. Que signifie pour vous la mort, du coup, Maxime Vallée? Pour vous, la mort, c'est quoi? C'est la fin de la vie, et après, il n'y a rien?
Ouais, c'est un petit peu la fin de la vie, et derrière, il n'y a rien, sauf si on arrive à laisser une trace dans l'imaginaire collectif, en fait, de son passage sur Terre.
Ça vous a jamais posé question, le fait qu'il y ait rien après la mort? C'est raide quand même, comme finale. C'est...
Oui, c'est vrai que pour le coup, comme finale, c'est assez dur. Mais moi, j'imagine qu'il y ait une trace de moi qui restera quelque part, et que du coup, je continuerai à vivre à travers ça.
Pour finir, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez, par exemple, de Jésus? Est-ce que ça vous arrivait déjà de lire les évangiles et de vous interroger sur la figure de Jésus, sur le fait de savoir si elle a existé ou pas, sur ce qu'il a dit, sur ce qu'il représente?
Alors, j'ai essayé d'en lire certains passages. Bon, je vous avoue que j'ai pas tout lu. Mais après, la question de savoir s'il a existé ou pas, pas vraiment quelque chose une question que je me pose, et bon, que je me pose toujours pas. Mais l'image et les messages qui sont véhiculés, par contre, c'est des messages dans lesquels je me retrouve aussi, puisque dans les messages de solidarité, de vivre ensemble et de communauté quelque part, c'est vrai que c'est des notions qui sont fortes pour moi aussi.
Eh ben, merci beaucoup, Maxime Vallée, d'être venu ce matin au micro de Vivante Église pour nous faire découvrir un peu le monde du handisport, le monde de l'escrime, et puis pour cette discussion simple et à bâton rompu à la fin de cette émission. Merci beaucoup, et donc bonne chance pour les prochains championnats d'Europe, c'est ça?
C'est ça.
Et rendez-vous donc peut-être pour les JMJ de Rio, peut-être qu'on vous verra à l'écran, donc en 2020. Et c'est
à Tokyo.
Merci beaucoup, Maxime Vallée. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.